Histoire, actualité, comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, et en ce vendredi, au terme d'une semaine de prix littéraire, nous nous posons donc la question, une nouvelle fois, des rapports entre littérature et histoire. Cette semaine, donc, l'écrivain Éric Vuillard, souvent vanté dans la Fabrique de l'Histoire pour ses travaux, a obtenu le prix Goncourt pour son roman historique L'Ordre du Jour, et Olivier Guèze le prix Renaudot pour la disparition de Joseph Mengele. Aujourd'hui, nous allons donc réfléchir avec deux historiennes et un historien au rapport entre histoire et littérature, entre archives et fiction. Depuis plus de 10 ans, en effet, historiens et écrivains explorent des territoires communs et s'empruntent parfois méthodes et modes d'écriture. À l'occasion de la parution des Cahiers de Lerne sur Pierre Michon et du dernier numéro de la revue Écrire l'histoire consacrée à la petite histoire, nous réfléchirons donc à ces porosités avec Judith Lioncamp, elle est maîtresse de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, avec Catherine Naquet, qui est professeure de littérature médiévale à Paris 3, Sorbonne Nouvelle et co-coordinatrice du numéro d'Écrire l'histoire sur la petite histoire qui vient tout juste de paraître, et avec François Hartog, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a participé au Cahier de Lerne sur Pierre Michon. Mais vous le savez, le vendredi à la fin de l'émission, nous traiterons d'un autre sujet, puisqu'à la toute fin de cette émission, avec le site Retro News de la BNF, de la Bibliothèque Nationale de France, eh bien nous vous proposons une lecture d'un article de presse de ces deux derniers siècles. Aujourd'hui, nous parlerons d'un article tiré d'un journal de 1890 et il était signé Séverine et il parlait de la question de l'avortement. Aujourd'hui, la question des rapports entre l'histoire et la littérature s'englue en une expression figée, concaténée de ces briques bien solides et bien ternes dont on fait les édifices scolaires. Voilà ce qu'écrit dans le dernier numéro des Cahiers de Lerne consacré à Pierre Michon, professeur au Collège de France, qu'est Patrick Boucheron. Et nous allons pourtant tenter de dépasser ces rapports concaténés, ces expressions figées dans cette émission d'aujourd'hui avec François Hartog. Bonjour François Hartog.
Bonjour.
Avec vous, Catherine Naquet, pardon. Bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Judith Lioncamp.
Bonjour.
Alors, cette question, vous la traitez depuis longtemps, des rapports entre histoire et littérature, et vous avez écrit avec Dina Ribard, il y a quelque temps déjà, dans la collection Repères, à la découverte, l'historien et la littérature. Est-elle si concaténée, si figée que le décrit Patrick Boucheron dans ce petit texte consacré à Pierre Michon dans les Cahiers de Lerne ?
En effet, on peut avoir l'impression que depuis effectivement la fin des années 2000, le début des années 2010, notamment au fil des rentrées littéraires où tel romancier s'empare de telles questions historiques qui restent troublées, troublantes et qui suscitent immédiatement le fait qu'on se tourne vers les historiens en leur demandant « mais au fait, qu'est-ce que vous en pensez ?» il y a effectivement quelque chose qui s'est un petit peu ritualisé, on va dire. Je ne sais pas si c'est concaténé, mais c'est ritualisé. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans les discussions que ces romans suscitent, la question des rapports entre histoire et littérature soit traitée dans son intégrité.
C'est-à-dire ?
Voilà. C'est-à-dire qu'il s'agit toujours de la question de la provocation que la littérature ferait au savoir historique.
Ouais.
Voilà. C'est ça la forme figée. De savoir comment des historiens peuvent travailler avec la littérature, au-delà même des questions d'écriture de l'histoire, en réalité, ça reste un peu secondaire. Donc c'est quand même un jeu de rôle qui est assez figé.
Et donc, vous avez réfléchi, vous aussi, François Hartog, directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, qui a beaucoup travaillé à la fois sur l'écriture de l'histoire au XIXe siècle, mais également à d'autres périodes, et en particulier à la période antique, à ce que pouvait apporter la fréquentation de ces romanciers, de ces personnes qui font du récit, comme Éric Vuillard, à l'historien que vous êtes, et en particulier Pierre Michon, à partir de son exemple, de l'exemple de son roman qui s'appelle, c'est un récit en l'occurrence, qui s'appelle Les Onze.
Oui. Pour moi, cette question histoire-littérature, on pourrait remonter beaucoup plus loin
que les 10 ou 15 dernières années.
Oui. Bon. Et on pourrait repartir d'Aristote et distinction opérée par Aristote sur ce qu'est le champ de l'histoire, le champ réservé à l'histoire. Mais on ne va peut-être pas faire ça ce matin.
Vous pouvez déjà dire, effectivement, vous êtes spécialiste, vous avez travaillé sur Plutarque et sur d'autres, effectivement, que cette question-là se posait déjà à d'autres moments.
Oui, voilà. Bon. Et pour moi, évidemment, je l'envisage, n'étant pas écrivain, j'envisage cette question du côté de l'historien. Mmh. Bon, je ne prétends pas parler pour l'histoire, mais je me place quand même du côté de l'historien. Et ce qui est arrivé ces dernières années, auxquelles Judith Lyon-Caen faisait allusion, c'est plutôt sur le mode, on primait ses livres, ça a commencé avec Les Bienveillantes, mmh. de Jonathan Little, et tout de suite, on se tournait vers les historiens en disant « Voilà quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire.
Ouais.
Vous êtes incapable, voyez bien, vous passez votre temps à nous raconter des histoires compliquées, etc. » Mais ces questions-là, il a fallu que des écrivains les prennent en charge pour qu'on en parle enfin. Bon, tout ça est évidemment ridicule.
Oui, parce qu'effectivement, Jonathan Little était assis sur des épaules de géants de l'histoire, en l'occurrence.
Bien entendu.
Il avait Raoul Eberg ou d'autres.
Ça ne contribue en aucune manière à la clarté d'un débat sur qu'est-ce que peut la littérature, qu'est-ce que peut l'histoire et en quoi les démarches sont différentes. Et si vous me posiez la question pour ma part, la lecture de romanciers, la lecture de textes littéraires permet de saisir ce qui est en train d'advenir, je trouve. Le praticien des sciences sociales, il est obligé, il vient après coup.
Mmh. Bon. Et quand on lui demande ce qui va se passer, bien que fort de son savoir sur le passé, il répond « je n'en sais rien ».
Oui, il vient après coup et il faut qu'il y ait ces décalages. Sinon, il n'y a pas une démarche de type science sociale. L'écrivain, lui, il essaye de dire ce qui n'a pas encore été dit. Et en essayant de dire ce qui n'a pas encore été dit, il saisit probablement, pour les meilleurs d'entre eux, ce qui se trame dans nos sociétés. Et ces écrivains qui ont été primés, même s'ils parlent de moments du passé, mm-hmm. eh bien, saisissent quelque chose de notre contemporanéité. Et c'est en cela qu'ils m'intéressent, et c'est en cela que leur lecture m'importe.
Oui, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par François Hartog ?
C'est ce qui est très puissant chez Michon. Je ne suis pas absolument certaine que ce soit aussi puissant chez certains des livres primés cette semaine. Enfin, ce qui est très puissant chez Michon, enfin, ce qui est très frappant, c'est que justement Pierre Michon, qui d'ailleurs a suscité depuis longtemps des numéros, il y a eu un numéro de critique en 2005
absolument,
sur Pierre Michon et l'histoire.
À partir d'un colloque à la Sorbonne en 2004.
Voilà, donc il y a déjà eu, enfin c'est assez. Michon est un écrivain qui intéresse les historiens, mais qui n'est pas dans cette posture de provocation, en tout cas qui n'est pas posée aussi par le journaliste, dans cette posture de provocation qui est vous voyez bien. Ce qui, je crois, est très puissant chez Michon et qui nous fait réfléchir, nous, historiens, c'est notamment sa manière de figurer une présence du passé qui effectivement nous parle comme historien dans notre rapport à l'archive, dans notre rapport à l'écriture, dans nos rapports aux écrits du passé.
À l'image.
Et à l'image, évidemment, pour les 11. Et au rapport entre l'image et l'écriture de l'image, puisque c'est, dans les 11, c'est tissé très, très, très serré.
Bon, rappelons que les 11, pour les 11, Michon invente un peintre révolutionnaire qui représente le comité de salut public et qui, donc, à partir de cette image supposé, donc, décrit en roman ce qu'était ce tableau et l'importance de ce tableau dans la France à la fois de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, puisqu'on y entend aussi Michelet.
En passant donc par un deuxième tableau qui aurait représenté la commande faite à ce peintre fictif de ce tableau. Et,
une esquisse de Géricault.
Voilà, une esquisse de Géricault et 12 pages tout aussi fictive de Michelet, qui aurait repris toute cette histoire. Donc il y a un serrage des rapports entre fiction et histoire qui n'est pas de l'ordre du dialogue entre histoire et littérature. Il y a un travail dans la littérature sur la présence du passé. Et je crois que c'est ça qui fait que ça intéresse les historiens.
Oui, et vous dites d'ailleurs à propos de ce texte que vous écrivez dans les Cahiers de Lerne sur Pierre Michon qui vient tout juste de sortir. Et d'ailleurs, Pierre Michon était l'invité de la Grande Table cette semaine sur France Culture. Vous dites, François Hartog, que cette question, c'est comment représenter l'absence, en fait. Et c'est le travail que font à la fois les romanciers comme Pierre Michon ou les historiens, mais simplement avec peut-être des moyens légèrement différents.
Oui, je crois qu'on peut s'accorder sur cette... C'est un discours qui prend en charge l'absence. Bon. Celui du romancier, celui de l'historien, et ils le font, chacun de ces discours le fait à sa manière. Moi, ce qui m'a le plus intéressé dans Les Onze, et c'est ce sur quoi j'ai centré mon texte, c'est le rapport entre dire et voir, voir et dire, bon, qui est quand même un point important pour l'historien, bon, puisque l'historien, en général, parle de ce qu'il n'a pas vu, et il essaye de faire voir ce qu'il n'a pas vu. Bon, Michon parle évidemment de ce qu'il n'a pas vu, puisqu'il
invente tout.
Et il le fait à travers ce montage extraordinaire de ce tableau qui n'existe pas, qui renvoie à un tableau qui n'existe pas, et qui s'appuie sur un texte qui n'est pas celui-là. Bon. Mais c'est justement dans ce mouvement qu'il m'a pas spécialement intéressé, et j'ai essayé de l'inscrire, non pas du tout pour le réduire, mais de l'inscrire dans cette longue perspective qui est celle de la de l'ekphrasis, ce qu'on appelait l'ekphrasis en grec, c'est-à-dire la description de ce genre.
Un genre littéraire.
Et de dire, finalement, Michon, c'est une espèce de philostrate, parce que Philostrate l'Ancien est l'auteur d'un ouvrage fameux qui s'appelle Les Images, bon, où il décrit des tableaux, et évidemment la question est de savoir, est-ce que ces tableaux ont jamais existé?
Ouais. Et surtout, la question est de savoir si certains, comme plus tard, et en particulier au XVIe ou au XVIIe siècle, n'ont pas tenté, d'après la description, en l'occurrence de Philostrate l'Ancien, de ces tableaux qui n'auraient peut-être jamais existé, de les graver ou de les faire graver en se disant « on peut représenter quelque chose qui a été écrit et qui peut-être n'a jamais existé
». Et c'est encore ce que voulait faire Goethe.
Oui, et donc effectivement, cette question de la représentation, de l'absence, c'est quelque chose qui met en commun l'historien et le littéraire, ou celui qui écrit des romans ou des récits, comme Éric Vuillard. Éric Vuillard était ici même à la Fabrique de l'Histoire pour nous parler de ces questions-là. C'était au début de cette saison. On en écoute un extrait. Ce n'est pas à propos de son dernier roman, donc sur l'ordre du jour, qui vient d'être couronné par le prix Goncourt, mais c'est à propos de son précédent, 14 juillet, qui raconte la journée du 14 juillet 1789.
Il se trouve que le récit est sorti des manières de faire l'histoire pour les historiens. Ce qui fait que la littérature, là, me semble-t-il, peut faire quelque chose, c'est-à-dire en prenant la science, qui est celle, disons, des historiens modernes, reprendre, renouer le fil, au fond, avec le récit, mais d'une autre manière. C'est-à-dire non plus un récit qui tournerait, et ça a son importance à la fois littéraire et politique, autour d'une seule figure, ce qui est une façon ancienne et donc qui a une connotation politique particulière, de faire un récit, mais à partir de quelque chose de plus fragmenté.
Un récit choral, on pourrait dire.
Oui, alors pour en donner, je crois, l'importance politique, en tout cas, que ça peut avoir, et littéraire, il faut se rappeler, je crois, de la façon dont Michelet raconte tout ça. Michelet, la moitié de son récit du 14 juillet porte sur l'ambassade de Thuriot. Ça fait beaucoup, la moitié, tout de même. Il y a un homme en haut de la tour, le représentant, et en bas, il y a, disons, cette clameur, quand on le voit, qui est le suffrage universel. Au fond, c'est une mise en scène politique, qui a sa force, d'ailleurs. Mais surtout, on peut, voilà, je crois, faire écrire aujourd'hui l'histoire autrement, parce que, précisément, on a des sources. D'abord, tout au long du 19e, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup sur la liste des vainqueurs de la Bastille, sur leur sociologie, donc on a une liste importante quand même, qui fait presque, disons, 1000 noms, avec parfois le métier, l'adresse. Je suis allé à la fois donc au centre-ville, aux archives nationales, donc travailler sur les archives des commissaires, mais pas seulement, sur aussi, alors là, donc, à Saint-Denis, sur la liste des vainqueurs de la Bastille, donc, puis, enfin, les listes, puisque tout ça a duré très longtemps et c'est très intéressant puisqu'il n'y a pas seulement les noms, il y a les signatures. Ça permet de voir que Aubin Bonnemère, par exemple, signe Aubin, mais qu'il inverse la barre du N.
Donc, c'est ces petits détails.
Il est quasiment analphabète et puis ça a quelque chose. Et là, j'en reviens aux émotions de qui est touchant et l'importance que ça a au fond. Enfin, on peut nouer ça à une question peut-être plus générale qui est que effectivement, vous le disiez à l'instant, nous trions et pas seulement les périodes, mais nous trions les archives. C'est-à-dire que non seulement nous écrivons à une période donnée, dans un milieu social donné, qui est celui de chacun, mais avec des idées politiques aussi qui sont les nôtres. Et de ce point de vue-là, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, elles ressortent. Et donc, nous effectuons un triage. Et pour venir à l'émotion, je me souviens très bien de cette archive qui porte sur donc l'un des nombreux participants, François Rousseau, à la prise de la Bastille.
Qui a un allumeur de réverbère.
Voilà, je tombe sur ce nom. Alors évidemment, c'est le nom Rousseau, le frère de Jean-Jacques, enfin, etc. Ça m'attire. Mais pas seulement. Tout à coup, cette archive, d'abord, est très belle. Elle est dans cet ancien papier qui se dégrade peu, etc. Très bien écrite. Et puis, il y a en tête 14 juillet 1789. Et donc, il s'agit d'un cadavre que l'on ramène à la base geôle du Châtelet, qui est ramené par un certain nombre de personnes. Et puis, il se trouve que l'archive est double, en fait. On a l'archive à proprement parler. Et puis, sur cette archive, dans la marge, en fait, il y a un autre procès verbal qui, lui, est 8 mois plus tard. Et cette fois-ci, c'est sa femme, Marie-Jeanne Billard, qui vient tout simplement sur papier, en fait, sur la base de la première archive qu'on a devant, identifier le corps de son mari. Et la première émotion...
C'est une scène.
D'une certaine manière, il y a une scène tout de suite, puisqu'il y a une intrigue aussitôt, puisqu'il y a deux dates. Donc on voit bien qu'il y a malgré tout une asymétrie dans les sources, quand il y a des sources, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, évidemment, suscite de l'émotion, et cette émotion se répercute dans l'écriture.
Alors voilà, on a beaucoup de choses dans cet entretien que nous avez donné avec Michel Billard, spécialiste de la Révolution française, dans un dialogue entre un historien et un auteur, donc Éric Vuillard, il y a quelques semaines de cela. Et en particulier, beaucoup de choses qui nous rappellent que, on parlait tout à l'heure de Pierre Michon qui invente un texte de Michelet, mais lui, Éric Vuillard, en tant qu'auteur de 14 juillet, se réfère au texte de Michelet pour repartir sur d'autres chemins. Et ça nous dit tout de même l'importance, Judith Lioncan, vous en êtes spécialiste, du 19e siècle dans cette façon d'écrire l'histoire, c'est-à-dire comment, à un moment donné, c'est ce que disait au tout début Éric Vuillard, eh bien, les deux chemins se sont séparés, c'est-à-dire le chemin d'une histoire qui se voulait plus scientifique, plus fondée sur des sources, et puis le chemin d'une autre histoire racontée par d'autres personnes qui s'appelaient, par exemple, les romanciers, Judith Lioncan.
Sauf que, dans ce que dit Éric Vuillard, l'écriture qui fait image, c'est celle de l'historien, c'est celle de Michelet. Et c'est aussi présent chez Pierre Michon. C'est-à-dire que la présence, ce que d'ailleurs fait Vuillard aussi dans l'ordre du jour, c'est un jeu. Enfin, le roman se construit dans un jeu avec des images du passé qui sont des images déjà construites par d'autres écritures ou d'autres saisies photographiques ou cinématographiques. Et le tissage du romancier, il se fait à partir de ces images-là. Est-ce qu'il est possible d'écrire ou même de penser au 14 juillet 1789 sans se référer à l'écriture de Michelet? C'est-à-dire que c'est une médiation qui nous est commune. Qu'est-ce que ce serait écrire le 14 juillet 1789
en faisant semblant que ça n'a jamais été écrit par Michelet.
Voilà. Donc effectivement, la médiation de beaucoup d'écrits du 19e siècle, que ce soit des écrits d'historiens, enfin d'historiens d'historiens écrivains comme Michelet, dont toute l'écriture a une puissance de visualisation qui est quand même hors du commun. Dans le cahier de Lerne sur Pierre Michon, il y a un très bel article de Paul Petitier qui revient à cette question, qui est spécialiste de Michelet, et notamment sur la question de l'écriture du détail chez Michelet, qui est très singulière.
Elle dit, Michon retient donc un détail, non en fonction de sa pertinence historique, mais de son impact imaginaire. Et elle prend l'exemple de la houblande couleur de fumée d'enfer, donc dont part Pierre Michon, son peintre Corentin, peintre fictif de cette houblande, alors que l'élève de Michelet, décrit Michelet arrivant au Collège de France avec cette même houppelande couleur fumée d'enfer. Donc il a inversé les temporalités, dit Paul Petitier, il a inversé les personnages, il a fait que celui qui venait après se pare du même vêtement que celui dont Michon dit qu'il venait avant dans ce récit.
Et là, effectivement, Michon retrouve donc un usage du détail qui existe chez Michelet, mais qui existe aussi, effectivement, chez d'autres romanciers. Je dirais pas de romanciers historiques du 19e siècle, mais de romanciers historiographes. C'est-à-dire qui ne font pas forcément des romans historiques au sens de Walter Scott, mais qui font, je pense à Balzac, je pense à Jules Barbet de Revilly, qui m'est particulièrement cher. Qui sont des romanciers, justement, qui ont une capacité à produire des présences du passé, à produire des images qui ensuite ne peuvent pas ne pas accompagner l'historien. Voilà. Donc effectivement, il y a cette histoire toujours racontée de la séparation entre le roman, la littérature d'un côté et l'histoire savante, discipline, qui est tout à fait, oui, bien sûr,
voilà.
Je veux dire, qui est incontestable. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas absolument
épuisé
la question, dans la mesure où l'écriture d'un Michelet déjà vient déjà compliquer l'histoire de cette séparation.
Et une écriture qui est contemporaine justement de cette volonté de l'histoire de se durcir d'une certaine façon et de se séparer de la littérature. Catherine Croisinaquet, vous avez co-coordonné donc le dernier numéro d'une revue qu'il faut absolument conseiller à tous nos auditeurs parce qu'elle fait un travail considérable depuis maintenant pas mal d'années sur cette question, et d'ailleurs Paul Petitier en est la cheville ouvrière de cette revue. Elle s'appelle Écrire l'histoire, elle est publiée aux éditions du CNRS, et le dernier dossier que vous avez coordonné avec Alain Delissène, Catherine Croisinaquet, s'intitule La petite histoire. Et justement, je trouvais que c'était intéressant de vous faire vous rencontrer les uns et les autres, parce que la petite histoire, c'est l'histoire du détail et c'est l'histoire de l'anecdote souvent, et en particulier dans un article de ce numéro, on vous montrait, enfin, une des auteurs, qui est Léonore Reverzy, montre combien les Goncourt, en plein moment justement où l'histoire veut s'autonomiser, veut devenir une discipline et une science en tant que telle, eh bien les Goncourt vont pratiquer une histoire, parce qu'ils vont écrire, en plus de leur roman, une histoire. Donc, et cette histoire se veut une histoire de l'anecdote, du détail, des accumulations de détails, d'une certaine façon, qui dirait la vérité du passé.
Oui, de toute évidence, il rejette en quelque sorte, il rejette la grande histoire, enfin l'histoire académique ou la grande histoire, peut-être des histoires officielles, et de façon à mettre au jour d'autres éléments qui, pour eux, font histoire bien davantage que la grande histoire qui est tournée vers l'épopée ou bien qui est tournée vers les modèles de l'étude tels qu'on peut les trouver en pratique à cette heure, à ce moment-là. Et de fait, cette démarche historienne repose sur l'accumulation, sur la compilation de documents les plus divers, par exemple les petits faits inédits, donc les anecdotes, mais aussi les estampes, mais encore on peut trouver aussi les histoires, les anecdotes qui sont entendues comme des histoires, et je cite Éléonore Reverzy, à hauteur des corps, du côté de l'intime. Et ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont tout cela est abouté l'un à l'autre, sans qu'il y ait une vision de surplomb, comme tend à le faire les historiens, qui sont peut-être des historiens se recommandant de la scientificité. Et donc là, on a quelque chose qui est très original.
Et qui brouille les pistes.
Et qui brouille complètement les pistes, bien sûr, puisque ça fait partie du mode d'écriture aussi, donc des Goncourt.
Judith Lioncan.
Mais les Goncourt, là, reprennent aussi quelque chose qui est, par exemple, très présent quelques décennies auparavant chez Balzac, qui pose quand même une opposition très nette. Je pense à, notamment dans un texte qui est l'introduction aux études philosophiques, qui est un texte, je crois, qui date de 1835, où il dit, bon, d'un côté, il y a les historiens en toge, donc ça, oui, c'est nous, qui se croient grands pour avoir enregistré les faits. Et de l'autre côté, il y a le romancier, et le territoire du romancier est immense, puisque les historiens en restent à ce qu'on va appeler plus tard l'histoire bataille, mais et le territoire du romancier est immense, et chez Balzac, il le définit comme celui des mœurs. Mmh. Bon. Et c'est vrai que les Goncourt reprennent cette, enfin, travaillent différemment par le goût du détail, cette opposition.
Oui, et ce qui est très intéressant, c'est de prendre au sérieux, d'une certaine façon, dans un numéro d'Écrire l'Histoire, qui est une revue fort sérieuse, la question de cette petite histoire qui est souvent décriée. Gosselin le Nôtre est certes encore publié, je crois, chez Tempus ou je ne sais plus quelle maison d'édition, je crois que c'est Talendier en l'occurrence. Et Gosselin le Nôtre, c'est vieux papier, vieille maison. C'est donc une vision effectivement d'une histoire qui a souvent été daubée par les historiens universitaires et en particulier les historiens du XXe siècle, sinon comme une source justement pour montrer combien l'histoire s'était détachée de cette petite histoire.
Oui, tout à fait. Gosselin le Nôtre, en effet, c'est l'accumulation de tous les petits faits, d'anecdotes diverses, mais il n'y a aucun lien, enfin, qui se crée d'une histoire à l'autre, et au lecteur, en quelque sorte, de se débrouiller. Et l'histoire consiste justement, et c'est une force pour lui, d'accumuler les documents qui, eux, font sens, sans avoir besoin du regard scientifique de l'historien, du regard en surplomb, effectivement, pour expliquer, pour justifier, pour mettre en perspective. Donc, c'est l'histoire brute, mais qui est faite des petits faits.
Alors, vous qui avez travaillé sur Fustel de Coulanges, qui n'est pas tout à fait Gosselin le Nôtre, en l'occurrence,
pas tout à fait.
François Hartog, qu'est-ce que vous pensez, justement, de cette comparaison? Parce que tout compte fait, ce qui est décrit dans ce numéro, le goût du détail, le goût de l'intime, on l'a vu renaître chez des historiens que nous aimons beaucoup et qui sont souvent autour de cette table, ou des historiennes comme Arlette Farge, par exemple. Et on se dit, tout compte fait, ce goût du détail qui avait été peut-être abandonné avec une autre focale plus large, plus ambitieuse, etc., revient dans l'histoire. Y a-t-il une différence et quelle est-elle, d'une certaine façon, François Hartog?
Oui, je pense qu'il y a une différence, je pense, dans la mesure où c'est ce qu'on vient d'évoquer là pour le 19e, et ce sont aussi des choix, la traduction de choix qui sont des choix politiques.
Idéologiques.
Oui. Donc c'est quand même aussi, Lémoncourt...
Ce ne sont pas des progressistes de la plus belle eau. Ce ne sont
pas les plus grands progressistes, ce ne sont pas des républicains farouches, ce n'est pas... Bon, donc, ce choix... il y a Balzac que vous évoquiez, mais je pensais à cet historien qui s'appelle Monteil, bon, qui était aussi un ramasseur de
Alexis Monteil.
Oui, Alexis Monteil, qui est un ramasseur de vieux papiers, hein, et qui s'opposait à l'idée même qu'il puisse y avoir une histoire nationale. Bon, c'était aussi une position comme ça politique. Bon, alors, le petit détail, oui, mais le petit détail peut avoir une fonction polémique par rapport à ce qu'on définit à ce moment-là comme une histoire qui devient l'histoire officielle, l'histoire scientifique, l'histoire, etc. Si on retrouve cela dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est plus, je crois, par le détour de l'anthropologie. Donc ouais. C'est une approche anthropologique de la société, et c'est une approche, au contraire, qu'on peut qualifier de gauche.
Oui. Hein. Et donc, avec le même détail, d'une certaine façon, on peut avoir des lectures qui sont diamétralement opposées politiquement, c'est ce que vous semblez nous dire, donc entre le 19e des Goncourt et le 21e siècle d'Arlette Farge.
Thank you.
ce week-end, si vous êtes à Paris, demain et donc dans toute la nuit de demain samedi jusqu'au dimanche matin au lever du soleil à 7h55, eh bien vous pouvez vous rendre à l'Institut du Monde Arabe où se tient la nuit de la poésie. On pourra y entendre entre autres cet ensemble, l'ensemble Bab Assalam, donc qui performera pendant toute cette nuit, où il y aura également des lectures qui seront accomplies par Dominique Blanc ou encore par Charles Berling et bien d'autres, donc toute la nuit entre 19h et le lever du soleil entre samedi soir et dimanche matin. Vous êtes en train d'écouter La Fabrique de l'Histoire, l'émission d'actualité du vendredi, le rapport entre l'actualité et l'histoire, et nous nous intéressons à l'occasion du prix Goncourt et du prix Renaudot qui ont été remis à deux récits qui traitent du passé, donc le livre d'Éric Vuillard et celui d'Olivier Guèze, à ces rapports complexes entre histoire et littérature. On était au cœur du 19e siècle et on faisait un pont très rapide jusqu'au 21e siècle, et vous nous disiez, Judith Lancan, vous n'oubliez pas que cette question du détail dont vous parlez, elle est très présente aussi dans l'œuvre de celui que vous aimez beaucoup, à savoir Eugène Sue, sur lequel vous avez travaillé pour votre thèse.
Non, en fait, je pensais à ces histoires, enfin, en réfléchissant à cette question du détail, c'est-à-dire ce qui, dans l'écriture du romancier, ou d'ailleurs dans l'écriture de l'historien, encapsule une expérience du passé, et que la forme de l'écriture, par exemple l'anecdote, amène jusqu'à nous. Je pensais à... En fait, c'est une question qui, effectivement, occupe romancier et historien, des manières de saisir et de voir des présences. Il y a une réflexion intéressante, par exemple, dans le célèbre texte de Walter Benjamin sur le collectionneur, justement sur cette question du rapport que le collectionneur entretient avec des objets, qui peuvent être des écrits d'ailleurs, qui sont des présences du passé. Mmh. Et le rapport entre l'historien et le collectionneur, et donc puisqu'on parlait de la petite histoire, est quelque chose qui, je crois, doit être pensé là.
Oui, et on peut d'ailleurs le rapprocher.
Et le chiffonnier.
Oui, le chiffonnier. On peut le rapprocher du travail d'Antoine Compagnon qui vient de sortir sur les chiffonniers de Paris, mais aussi de celui de Manuel Charpie, par exemple, qui dans le dictionnaire ou l'histoire mondiale du 19e siècle écrit un article sur l'accumulation du bibelot et la multiplication de ces bibelots tout au long d'un 19e siècle qui devient industriel, effectivement, parce que ces bibelots disent quelque chose à la fois de la collection et de la volonté de s'approprier le passé et l'ailleurs. Catherine Croisy-Naquet, sur ces questions de l'anecdote telle qu'elle est racontée dans ces récits de petites histoires que vous prenez au sérieux dans le numéro d'Écrire l'Histoire.
Les anecdotes, nous avons recoupé quelques présentations d'anecdotes, mais dans des récits, donc dans les anecdotas de Procope de Césarée, on est remonté aussi au Moyen-Âge et puis donc jusqu'au
XVIIe
et au XVIIIe siècle.
Vous êtes spécialiste de littérature médiévale.
Oui, je suis spécialiste de littérature médiévale. Et donc, en l'espèce, on a pu considérer que ces anecdotes en disaient beaucoup plus que, effectivement, ce à quoi on les renvoyait, en règle générale. Et donc, elles avaient pour fonction, d'une certaine manière, de bousculer, justement, cette grande histoire telle qu'elle est penser la grande histoire dans les chroniques universelles, etc. Et que c'était une histoire de côté, une histoire par le biais, mais qui en fait mettait au jour un certain nombre d'enjeux de façon tout à fait suggestive et de manière tout à fait importante. Et donc en particulier un des articles, celui de Muriel Brault qui travaille sur Diderot, montre justement, parmi les œuvres de Diderot, un essai sur les règnes de Claude et de Néron. Et donc, elle montre très bien comment le jeu des anecdotes permet de renvoyer quelque chose d'essentiel, en définitive, sur la situation, sur le contexte de ce XVIIIe siècle. Donc, toutes ces anecdotes, elles sont effectivement à prendre au sérieux.
Oui, et ces anecdotes, tout compte fait, n'étaient pas des anecdotes pour ceux sur qui vous avez travaillé pendant longtemps, c'est-à-dire les historiens qui ne s'appelaient pas forcément encore historiens de l'Antiquité, François Hartog. C'était des sortes de leçons de vie, de façon de penser le monde, et ces anecdotes servaient à cela.
Oui, alors quand vous dites anecdote, oui. Entre Hérodote et Plutarque, il y a quand même un certain espace.
Bien sûr, bien.
Thucydide ne fait pas trop dans l'anecdote.
Thucydide ne fait pas du tout.
Bon, mais je vois bien ce que vous voulez dire. C'est bien ce modèle, au fond, qui s'est mis en place au cours du 5e, 4e, 3e siècle avant notre ère, qui a essayé de définir une place et une fonction pour l'histoire. Bon, et on retrouve aussi notre question de littérature, puisque c'est, au fond, quelle place peut-elle avoir? Et l'histoire, qui s'était trouvée expulsée, au fond, du champ sérieux par la philosophie, a dit, mais moi, je peux avoir un rôle comme philosophie morale. Comme, alors c'est le grand modèle de l'histoire maîtresse de vie. Et par conséquent, celui qui pousse cela au plus loin, c'est Plutarque. Dont les vies offrent, en principe, des modèles que l'on peut ensuite imiter, et ça va être ce rapport-là à l'histoire, va être ce grand rapport à l'histoire jusqu'au XVIIIe siècle.
Et vous dites, dans le texte que vous écrivez, parce que c'est une lettre à Pierre Michon dans les cahiers de Lerne, vous dites, en fait, nous avons Plutarque en commun. Moi, parce que je l'ai édité, vous, parce que vous avez lu Plutarque et que ça vous a aidé à écrire vos livres, en l'occurrence.
Oui, alors c'est un peu une plaisanterie, mais je pense... Moi, je n'ai pas de familiarité avec Pierre Michon, donc je ne sais pas comment il a travaillé. Mais je sais qu'il a lu, je suis absolument assuré qu'il a lu Plutarque et qu'il a médité Plutarque. Et que du côté de Plutarque, vous avez les hommes illustres. Enfin, on a traduit ça par les hommes illustres. Et du côté de Michon, vous avez les vies minuscules. Mais c'est quand même des deux côtés une réflexion sur ce que c'est qu'une biographie et quel usage peut-on faire d'une biographie ? Comment écrire une biographie et qu'en faire ?
Et dans ce cahier de Lerne, Pierre Michon dit cette phrase qui semble vraiment définitive. Judith Lioncan, il dit « L'histoire et le tragique sont une seule et même chose ». Et là, on se dit, tout compte fait, quelle place dans cette histoire et ce tragique pour la houppelande couleur de cendre de fumée, etc., etc. Et pourtant, le même personnage, le même auteur, utilise à la fois cette anecdote, ce détail, ce goût du détail, et cette volonté de tresser, dans, par exemple, son récit sur les 11, de tresser l'histoire tragique d'une révolution qui finit dans le sang.
C'est-à-dire que chez Michon, il y a cette parole sur... L'histoire, c'est la terreur. Enfin, c'est qu'il y a une sorte de sidération.
L'histoire, c'est de pure terreur,
c'est
dit-il.
C'est de pure terreur, voilà. Donc,
l'histoire est comme véhicule permanent de la terreur.
Il y a cette sidération et toute l'écriture se déploie justement dans ces détails, notamment, pour faire venir cette sidération. Et le passage par la fiction, les jeux de fiction, comme dit Christian Jouot dans l'article du cahier de Lerne qu'il consacre aussi à ces questions, tous ces jeux de fiction, cette quasi dévoration fictionnelle de l'histoire, comme il écrit aussi, finissent par susciter cette sidération face à la terreur. Donc il n'y a pas dans l'écriture de Michon, de contradiction entre l'histoire et le tragique. Puis on peut penser aussi, alors pour les petites histoires, aux histoires tragiques, pour le coup, qui je crois sont importantes aussi dans son écriture, les histoires tragiques de Rosset du XVIIe siècle, où d'ailleurs il y a aussi une sorte d'usage du détail, de l'anecdote qui joue avec cette idée de l'histoire maîtresse de vie, mais qui aussi, déroute, voilà, je crois.
Mais alors, ce qui est quand même très passionnant, c'est de se dire, tout ce chemin parcouru depuis ce milieu du 19e siècle dont nous avons parlé, de ces séparations de chemins supposés entre une histoire scientifique et un passé décrit par d'autres écritures, et en particulier les littératures et les romanesques. Et d'un seul coup, on voit à nouveau converger ces chemins aujourd'hui. Ça dit quoi de la situation de l'histoire, de la situation de la littérature, de notre situation vis-à-vis du passé, vous qui êtes spécialiste du présentisme et qui avez inventé même le terme de présentisme, François Hartog.
Vous ne serez pas étonné si je vous dis que j'y vois en effet un changement profond de nos rapports au temps, la traduction d'un changement profond de nos rapports au temps. Et que, aussi, là encore pour aller extrêmement vite, aussi longtemps que ce temps moderne, celui du 19e et une partie du 20e siècle, avait le dessus. Au fond, l'histoire savait où elle allait, puisqu'elle était
la flèche.
Elle était dans ce flot, dans ce
flux, la flèche du temps,
dans ce moment du vers le progrès. Et puis la littérature était quand même plus ou moins embarquée dans le même train, même si la littérature a toujours cherché à descendre du train. Bon, et à voir justement ce qui ne collait pas les failles dans ce... Bon, déjà Balzac fait ça. Et puis, dès lors que, dans, disons, dans le milieu des années 60, début des années 70, 1970, cette affaire ne fonctionne plus, qu'on entre dans ce que j'ai appelé avec d'autres présentismes, bon, l'histoire ne sait plus où elle va, et la littérature, au fond, débarque elle aussi de ce train qui n'avance plus, et se dit, mais au fond, qu'est-ce que je vais faire? Et vous avez le
ce
moment...
Que, ce que j'appelais des porosités.
Oui, mais c'est le moment, alors que nous avons traduit dans toutes nos sociétés, par le moment mémoire. La montée de la mémoire, la vague de la mémoire, le flux de la mémoire, enfin tout ce qu'on a utilisé. Et la littérature, enfin des écrivains, ont pris cette voie-là. Et, si vous voulez, c'est Modiano.
Bon,
Parle, alors s'inscrit dans cette perspective de la mémoire, d'une écriture mémorielle, mais avec cette singularité qu'il s'agit de mémoire qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que Modiano a passé son temps à écrire
des... On l'appelle la post-mémoire, oui.
Oui, si on l'appelle ça maintenant comme ça. Mais c'est quand même le point intéressant, c'est que c'est une mémoire pour beaucoup qu'ils n'ont pas. Bon, alors ça, c'est toute une voie, cette voie de la mémoire. Et aujourd'hui, il me semble que depuis justement ces années 2010, autour de 2010, on voit quelque chose de différent avec ces écrivains qui se trouvent avoir été primés, puisque je veux dire, le Little, c'est pas la mémoire. Bon, le maître qui a eu aussi le prix Goncourt, c'est pas la mémoire. Et Vuillard, c'est pas la mémoire non plus. Mais c'est un rapport. Alors, c'est un rapport à l'histoire, une utilisation de l'histoire, et il me semble que ce que retrouve l'histoire dans cette affaire, c'est une position ancillaire, qui était celle qu'elle a eue longtemps.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire qu'on...
C'est ce que vous racontez dans le très bel article que vous avez consacré à Europa, dans ce magnifique livre de 1392 pages qui s'appelle Europa, notre histoire. Vous avez écrit un court article, mais qui dit beaucoup de choses, effectivement, dans lequel vous dites, eh bien, peut-être on est en train de refermer la parenthèse de cette histoire
avec
un H majuscule qui dominait l'histoire avec sa grande H, comme disait Georges Perec.
Oui. Et donc, les historiens font ce travail avec les archives, bien, et les littéraires, les écrivains font un travail de type historien, mais avec un propos qui est le leur, et qui est un propos d'écrivain.
Et donc, position ancillaire de l'histoire. Donc, c'est la servante de quoi ?
La servante de la littérature.
Oh, que vous êtes pessimiste.
Julie Kiyokan. Julie Kiyokan. On a une professeure de littérature qui serait plutôt contente et une professeure d'histoire ou une chercheuse en histoire.
Non, mais il y a quand même une vitalité éditoriale de l'histoire qui ne va pas absolument uniquement dans le sens de cette ancillarisation. Cette réancillarisation. Par ailleurs, moi, ce qui me frappe quand même dans les deux, même s'ils sont très différents l'un de l'autre, le Renaudot et le Goncourt, c'est quand même que, même si le terme est un peu ringard, on peut les décrire comme des romans historiques. Simplement comme des romans historiques. C'est-à-dire la position d'un cadre historique qui est réputé connu, et à l'intérieur duquel le romancier vient installer soit des personnages secondaires inventer la psychologie d'un personnage d'un personnage avéré particulièrement dégoûtant, par exemple comme Mengele. Bon, voilà. Mais est-ce que, au fond, moi, je suis plutôt étonnée du fait que on n'est pas dans des lieux, même si l'écriture de Vuillard est très intense, d'innovation formelle particulièrement frappante. Au contraire, il y a un rejeu d'un rapport entre histoire et littérature qui est celui du roman historique.
Et sur ce point, Catherine Croisier.
Non, je voulais simplement aller dans votre sens. En effet, est-ce que c'est un renouvellement tout à fait formel ? Peut-être que cette pratique déjà existait même au Moyen-Âge, par exemple. On parle de roman historique ou d'histoire romancée, mais après tout, les formes narratives qui se partagent entre la littérature et l'histoire étaient déjà en vigueur. Donc, de ce fait, il n'y a peut-être pas une nouveauté absolue. Ça, je le pense également.
Maintenant que le roman contemporain ne cesse de revenir sur la Deuxième Guerre mondiale, l'après-Deuxième Guerre mondiale et cette...
L'après-guerre d'Algérie,
la guerre d'Espagne, donc les traumatismes...
Javier Cercas,
voilà, oui. Les traumatismes du XXe siècle, je pense que c'est un fait sur lequel on doit réfléchir.
Et c'est un fait aussi qui interpelle tous ceux qui veulent faire de l'histoire, parce que cela leur pose des questions, cela leur dit, voilà, il y a peut-être une voie, et on voit bien que certains d'entre eux sont dans l'hésitation pour emprunter cette voie, Judith Yoncan.
Vous voulez dire entre faire des études d'histoire et faire des études de littérature, oui. Mais bon, par ailleurs, il y a...
Écrire comme écrivain, ou se penser comme écrivain, alors qu'ils étaient partis d'une position historienne.
Exemple Audouin-Rousseau.
Oui, par exemple, Stéphane Audouin-Rousseau, dans ses derniers travaux, effectivement, qui dit « je clôt une période ». Et cette période, c'est mes études très longues sur la Première Guerre mondiale pour en ouvrir une autre, et où effectivement, peut-être l'écriture me dit autre chose que ce que me disait mon travail d'historien.
Qui est celle d'un questionnement sur la transmission,
oui.
Désormais.
Et je me permets ça, parce que j'ai fait ce que j'ai fait avant aussi, il y a cette, bien sûr. C'est pas, il ne se précipite pas à 22 ans et demi là-dedans. Voilà. Est-ce que, pour simplement poursuivre ce que disait Judith Lioncan à l'instant, je crois que c'est en effet, c'est du point de vue formel. Il n'y a pas d'invention formelle. Donc on est très loin de ce qui s'était passé justement dans les années 70-80, où c'était ce qui était recherché avant tout, dans ce monde où le langage était tout. Bon, là... On a une écriture, dans le cas de Vuillard, extrêmement dense, en effet, et très forte, mais il y a des points d'histoire, des nœuds d'histoire, séparés par des plages de vraisemblance, du vraisemblable. Et c'est dans ces plages du vraisemblable qu'il déploie son talent littéraire très grand.
Merci à tous les trois d'être venus pour débattre de ces questions. Vous le savez, on a beaucoup parlé de cela très régulièrement à la Fabrique de l'Histoire, mais on voit que cette question est profondément renouvelée par des parutions nouvelles. Parmi ces parutions, il y a le numéro d'Écrire l'Histoire et la totalité, pourrait-on dire, de la collection d'Écrire l'Histoire, qui réfléchit à cette façon dont on écrit l'histoire aujourd'hui. Et là, le dernier numéro que vous avez coordonné, Catherine Croisy-Naquet, c'est sur la petite histoire au CNRS édition. Il y a aussi les cahiers de l'Erne, donc auquel vous avez collaboré François Hartog, donc sur Pierre Michon, qui est peut-être pour beaucoup de ces écrivains aujourd'hui une sorte de figure tutélaire, et pour beaucoup d'historiens aussi. Et puis il y a votre travail que vous aviez fait il y a quelques années avec Dina Ribard, l'historien et la littérature, et vous m'annonciez qu'il y aurait bientôt un nouveau numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine sur ces questions-là.
Oui, je pense que c'est le numéro de janvier 2018, donc qui est consacré au rapport entre histoire, récits et littérature.
Et on va repartir au 19e siècle avec notre rubrique de fin d'émission, c'était à la une, avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable
le 26 avril prochain
en portant ces accusations. Je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Gil Blas, 4 novembre 1890. L'avortement. Je voudrais bien qu'on me dise d'abord où et quand il commence. J'ai peu habitué les lecteurs du Gil Blas à leur en compter de raides, mais vrai, il me coûte cette fois de mâcher les mots. L'homme qui se garde des suites d'une rencontre, la femme qui préserve immédiatement ses échéances futures, sont-ils donc des avorteurs? En bonne logique, la loi devrait dire oui. Et avorteur aussi, oh non, le vilain homme qui semait son blé en herbe, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Israël de germer et de moissonner. Mais à ce compte, les collèges, les pensions, les casernes, les couvents, les navires, toutes les agglomérations d'adolescents, d'hommes, de femmes, où les sexes isolés s'appellent et s'illusionnent, sont des fabriques d'avortements. Et à quel moment est-il légal, l'avortement? À quel moment ne l'est-il pas? L'Église est logique, au moins, dans ses interdictions, dans ses défenses. Mais le code, ah, le blagueur. Comme si la conscience, la seule loi du monde, faisait ses distinctions et s'abritait derrière ses subterfuges. Dès qu'un être a été lâché sur la terre, si petit, si frêle, si touchant dans sa laideur et dans sa faiblesse, dès qu'il a vagi son premier cri, agité ses menottes, dénoué ses petons, il vit, il est sacré. Avant, il y a une femme, et rien qu'une femme, vous m'entendez bien? Cela est si juste qu'en cas d'accouchement difficile, les médecins n'hésitent pas, ils sauvent la mère et laissent l'enfant dans le néant. On les étonnerait rudement, cela, en les traitant d'avorteurs. Mais la repopulation, disent les économistes. La repopulation, misérables hypocrites. Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Et comment osez-vous prononcer ce mot? La repopulation. Que fait-on donc pour les nombreuses familles, les tiolés de 10-12 moutards qui, dans votre état social, ne trouvent ni de quoi se nourrir, ni même de quoi se loger? Que fait-on pour les chefs de nombreuses lignées? Où est leur récompense? L'encouragement qu'on leur offre, l'appui qu'on leur accorde, l'aide qu'on leur prodigue, l'allègement de leurs charges, de leurs pesants devoirs, de leurs écrasantes obligations? Rien. La peine, la misère et le suicide au bout, voilà leur lot. Avant que d'imposer des célibataires, ou que d'aller fouiller dans le panier à linge sale des sages-femmes, la loi ferait vraiment bien de payer ses dettes. Moins de faubouriennes, même mariées, éviteraient un accroissement de postérité si le Paul à venir ne devait pas arracher le pain de la bouche de Jacques, Pierre et Jeanne. En se privant de tout, c'est la gêne. Un de plus, ce serait la misère. Elles se font quelquefois avorter par amour maternel, les ouvrières. On ne se doute pas de ça dans l'économie sociale, ni dans la magistrature non plus. Quant à celles qui risquent leur vie pour sauver moins leur réputation que le repos de ceux qui les entourent, elles sacrifient à un préjugé dont le code seul est responsable, car ce n'est certes pas la nature qui en a eu l'idée. Lorsque les hommes ont placé l'honneur des hommes sous le cotillon des femmes, ils auraient dû songer en même temps à ne pas imputer de crime et à ne pas frapper de châtiment tout acte commis par la femme pour sauvegarder l'apparence de cet honneur-là. Le contraire est illogique et cruel. Séverine.
Magnifique texte de Séverine, donc grande féministe fin 19e siècle. Vous pourrez retrouver sur le site Rétro News de la Bibliothèque nationale de France. Il est lu par Hélène Losseur dans une réalisation de Séverine Cassard. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati, Aurélie Marcet, Emmanuel Morsdinkan était avec nous aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'histoire de l'antisémitisme dans la fabrique de l'histoire. Et l'histoire continue donc pendant le week-end sur France Culture avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet qui recevra Nicole Pellegrin avec laquelle il parlera du voile, le voile proposé ou le voile imposé.